France Inter, le 18-20.
Et jusqu'à 19h, une semaine en France avec Éric Rochant, créateur de la série Le Bureau des Légendes, la saison 4 diffusée cette année, un des grands succès de 2018. Au sommaire également de cette émission réalisée par Frédéric Milano avec Gilles Gaillard, Michel Bézikian, Stéphane Boja, préparé par Irène Menahem et Jimmy Bourquin, le clip radio de l'actualité de la semaine. Et puis les bonnes ondes de Sandrine Houdin, on réécoutera son reportage sur les chiens du silence, des chiens qui aident les personnes sourdes en leur faisant des signes. 19h20, le téléphone sonne. Comment aider les jeunes à mieux se protéger d'Internet? La vie numérique, hein, c'est formidable, mais il faut en connaître les risques. Le standard à votre disposition dès maintenant, 01 45 24 7000.
Pierre Veille. Une semaine en France.
Éric Rochant, bonsoir.
Bonsoir.
Créateur de la série Le Bureau des Légendes, la saison 4, c'était cette année. Éric Rochant, c'est aussi deux saisons de Mafiosa et des films, entre autres, hein, Un Monde Sans Pitié, Les Patriotes, Möbius, on va y revenir. Le Bureau des Légendes, alors succès, tous les critiques disent que c'est formidable. Les personnages, le scénario, le réalisme de la DGSE, les services secrets français. Éric Rochant, l'espionnage, les agents secrets, ce monde de l'ombre, du mensonge, de la manipulation, est-ce votre passion ou seulement un prétexte, un vecteur pour raconter une histoire?
C'est un prétexte, plutôt un vecteur, comme vous dites, pour raconter une histoire, pour parler aussi des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire la politique internationale, la géopolitique, les grands enjeux du monde actuel. En fait, le genre de l'espionnage, c'est un peu un mixte entre le thriller, puis ça permet de raconter des histoires où il y a beaucoup de tension, où les gens risquent leur peau, hein, et de mixer ça avec aussi une vision du monde, avec parce que c'est des thrillers qui se passent sur fond de relations internationales importantes. Donc c'est deux choses qui m'intéressent, c'est de raconter des histoires tendues et aussi ne pas oublier de parler du monde, quoi.
Vous avez dit dans une interview à France Culture, les films sont là pour dire la vérité. Mais quelle vérité?
Alors les films ou la littérature, enfin en tout cas tous les arts narratifs, je pense, ou même figuratifs, on pourrait dire, sont là aussi, oui, pour dire la vérité cachée des choses, c'est-à-dire ce qu'on voit, c'est la réalité. On a accès à la réalité, mais en fait, on se demande quelle signification ça a et en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et en fait, les films sont là pour débarrasser notre vision des clichés et des images figées qu'on peut en avoir. Je donne toujours cet exemple qui est l'exemple par exemple de l'amour, qu'on se demande ce que c'est. Est-ce que j'aime quelqu'un, par exemple, qu'on se demande si est-ce que ce que je ressens pour telle personne c'est de l'amour ou est-ce que ressent telle personne pour moi c'est de l'amour. Comment on répond à cette question? On va chercher un peu autour de nous. On demande aux autres. On lit des bouquins. On va voir des films. Et les films nous disent ce que c'est que l'amour, mais à condition d'en faire, de le dire de manière poétique. Parce que s'ils nous disent, écoutez, c'est simple, c'est l'amour, c'est juste que tu manques de la personne tous les jours. Bon, à bout d'un moment, c'est une explication figée qui ne nous satisfait pas. Donc, les films et les romans sont là à travers les histoires, via les histoires, sont là pour nous dire ce que sont les choses. Donc, pour nous dire la vérité de ce qu'on vit, des sentiments qu'on ressent.
Éric Rochant, évidemment, la question inévitable. Vous préparez déjà la saison 5, vous écrivez?
Ça, c'est Secret Défense.
Un peu plus. Vous travaillez sur
moi, je travaille toujours. Hein, donc, ouais. Saison 5, saison 6, ou peut-être je vais passer directement à la saison 7, on ne sait jamais.
Donc là, vous ne voulez pas nous dire si vous écrivez?
J'écris toujours.
Non, mais une suite, une saison 5.
En fait, vous parlez à quelqu'un qui travaille sur le secret depuis 4 ans. Donc, je sais ce que c'est de ne pas révéler un secret.
Bon. Alors, quand vous écrivez les saisons du Bureau des Légendes, 1, 2, 3, 4, est-ce que l'actualité peut modifier le scénario en cours de tournage?
Alors difficilement parce que c'est une histoire extrêmement construite qu'on raconte. Le tournage dure 4 mois,
mais avec des éléments connectés à l'actualité.
Oui, mais des éléments connectés à une actualité profonde qui n'est pas sujette aux changements rapides et quotidiens et même de l'année. En fait, on s'attache à raconter à traiter de thèmes qui sont un peu telluriques. Donc, ce qui nous permet justement de ne pas être obsolète quand la saison sort. Parler par exemple du conflit syrien, c'était pas prendre le risque que un an après ça soit fini. Ça l'est toujours pas. On a pu croire que Daesh par exemple avait perdu la guerre. Manifestement, ça risque d'être relancé par le retrait américain de Syrie. Donc on traite de thèmes de l'actualité profonde et donc du coup évidemment les histoires sont très construites et ne peuvent pas, on peut pas changer comme ça d'un jour à l'autre. On a été contemporain de l'attentat de Charlie, on a été contemporain de l'attentat du 13 novembre et donc du coup on pouvait pas du tout, il fallait pas intégrer ces événements dans nos histoires qui sont liées à des choses plus générales.
Comment vous y prenez-vous pour construire un personnage qui doit tenir sur plusieurs saisons ?
Alors, on construit d'abord, on avance un peu à tâtons. Et c'est vrai que les séries reposent sur des personnages qui tiennent la route et dont la caractérisation permet un accès en profondeur et permet de d'être de plus en plus profond. En fait, une série, c'est quand même une histoire qui tourne toujours autour de la même chose. Et l'intérêt des séries, c'est de présenter des personnages qui vont traverser le temps avec nous. Hein. Et donc ça, c'est vraiment la grande différence entre faire une série et faire des films, c'est qu'on construit des personnages qui vont avancer dans le temps, qui vont changer avec le temps. Et c'est vrai que leur caractérisation doit faire en sorte qu'ils restent intéressants dans toutes les expériences qu'ils traversent. Alors, c'est pas seulement de l'écriture, c'est aussi de l'interprétation. Donc, c'est des personnages qui tiennent par l'écriture, mais aussi par les acteurs qui les jouent, et donc il faut que les comédiens eux-mêmes aient une profondeur et je dirais même une opacité et un mystère qui nous permet de ne pas se lasser d'eux. C'est très important. Donc en fait, il faut pas se lasser de l'écriture et il faut pas se lasser des acteurs. Ça, c'est le grand secret des séries, je crois.
Alors, Éric Rochant, rendez-vous habituel dans Une semaine en France. C'est le mix, le clip radio de l'actualité de la semaine écoulée et le tout mixé par Frédéric Milano. Les manifestations de gilets jaunes le week-end dernier, mobilisation nettement en baisse, mais des scènes de violence. À Paris, sur les Champs-Élysées, des manifestants attaquent des policiers. L'un d'eux dégaine brièvement son pistolet. Édouard Philippe rend visite à ces policiers lundi.
Vous avez peut-être vu sur les images, et ils ont tenu à me le dire ce matin, combien ils avaient été solidaires les uns des autres, combien ils avaient maîtrisé leurs réactions. Ils m'ont dit aussi quelles étaient, après coup, leur angoisse et l'angoisse de leur famille.
Toujours le week-end dernier à Paris, dans le métro, des hommes portant des gilets jaunes agressent verbalement une vieille dame. Un journaliste de 20 minutes, Thierry Chevillard, assiste à la scène.
Ils sont mis à faire des quenelles. C'est à ce moment-là que la dame qui était assise derrière moi s'est levée, est allée dans leur direction et leur a demandé d'arrêter. Elle leur a dit « Je suis juive, mon père a été déporté et mort à Auschwitz. C'est un geste antisémite que vous faites là, je vous demande de vous arrêter. » Ils ont rigolé, ils ont continué à faire des quenelles. Et le plus virulent s'est mis au milieu du couloir et s'est mis à hurler « Dégage la vieille, dégage la vieille, dégage la vieille. »
Le soir de Noël, des gilets jaunes restent mobilisés et réveillonnent sur un rond-point en Picardie à la sortie de l'autoroute A16.
On a fait des petites tartines avec du fromage blanc et de la persillade dedans. Ça vous dérange de réveillonner ici ou ça sacrifice ? Même un soir de Noël, tant qu'on n'aura pas le gain de cause, on sera toujours déterminé.
Que ce soit le réveillon, Noël, pas qu'on tiendra.
Tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, quoi. Il a beau dire ce qu'il veut, Macron, mais il ne nous aura pas. Parce qu'ici, c'est des gens déterminés quand même. Parce que faire Noël ici, ben chapeau. Vous pouvez vous applaudir ?
Face aux gilets jaunes, Emmanuel Macron discret cette semaine, des vœux de Noël très sobres sur Twitter et une déclaration au Tchad où il rend visite aux soldats de l'opération Barkhane appelle à l'apaisement.
Il est évident que les réponses, y compris judiciaires, les plus sévères seront apportées. C'est maintenant l'ordre qui doit régner, le calme et la concorde. Notre pays a besoin de ça, il a besoin de concorde, d'unité, d'un engagement sincère pour de causes collectives fortes. et il faut apaiser les divisions.
Une nouvelle affaire Benalla. L'ex-chargé de mission à l'Elysée, Alexandre Benalla, fait des affaires avec des chefs d'État africains, notamment au Tchad, avant une visite d'Emmanuel Macron, et avec des passeports diplomatiques qu'il aurait dû restituer après son licenciement de la présidence. Colère du député MoDem du Loiret, Richard Ramos.
J'avais dit déjà à l'époque publiquement que pour ma part, M. Benalla était un barbouzard de la République. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être un poison de la République, voire un parasite de la démocratie. Je pense que ce genre de personnage n'a rien à faire dans l'entourage de la République française. Il doit être poursuivi parce qu'il a dit devant les parlementaires, nos amis sénateurs, j'ai rendu mon passeport. Il a menti quand un contribuable n'a pas payé ses impôts, on sait saisir ses comptes. Eh bien, pourquoi n'a-t-on pas saisi le passeport de M. Benalla ?
Un record, la pétition la plus signée de l'histoire en France, plus de 1 800 000 signatures pour un recours juridique contre l'État, coupable d'inaction face au réchauffement climatique. Pétition lancée par 4 ONG, dont Notre Affaire à tous, Marie Toussaint, sa présidente.
Ce qui s'exprime à travers cette démarche, c'est une croyance en le pouvoir de l'État. C'est une action profondément citoyenne. Et je crois que le mouvement qui s'élève à travers le monde, à travers ces actions en justice, bien, il montre que si les États ne sont pas prêts à agir, les citoyens, les associations sont quant à elles prêtes à l'action et que cette action-là va prendre de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure que les États ne tiendront pas leurs engagements.
Éric Rochant, voilà une semaine résumée. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a frappé, que vous souhaitez commenter ? Parce que vous commentez l'actualité, vous prenez position sur votre blog au risque de plaire ou de déplaire. Pourquoi ? Pour vous, ça fait partie du travail d'un cinéaste de commenter publiquement l'actualité ?
Alors non, ça fait partie du travail d'un cinéaste, ça fait partie du travail c'est pas un travail, ça fait partie juste d'un souci que j'ai. À partir du moment où des opinions s'expriment, je pense avoir besoin d'exprimer la mienne, toujours de manière un peu plus longue que ce que nous permet les réseaux sociaux, hein, pas en 130 mots, mais plutôt, enfin 130 caractères, mais plutôt voilà sur le blog, parce que ça permet de
Mais tous les cinéastes ne le font pas.
Non, c'est ma personnalité, c'est peut-être aussi ma connexion, je sais pas, à l'actualité, au monde. Je reste toujours soucieux de ce qu'il y a autour de moi, donc j'ai envie aussi d'exprimer ce que j'ai à exprimer, alors que tout le monde est en train de... Aujourd'hui, c'est la grande expression, tout le monde s'exprime, hein, donc du coup, pourquoi pas moi, hein.
Il y a un événement qui vous a frappé dans ce rappel qu'on vient de faire ?
En fait, tous les événements dont on a parlé là sont frappants, c'est tous des événements importants. Il y a un non-événement qui me frappe, c'est l'affaire Benalla. Pour moi, c'est une non-affaire, c'est un non-événement. Je pense qu'on n'est pas loin de l'escroquerie médiatique, je dois vous le dire, parce que je pense que tout ça a été toujours monté en épingle. C'est quelque chose qui permet de prendre le relais d'autres sujets qui sont probablement en train de s'essouffler. Alors bon, voilà, on est en train d'essayer de monter ça. Je pense que ça n'a vraiment... Enfin,
mais qui,
je dis pas que c'est rien.
Mais
je dis logique médiatique. La logique médiatique qui cherche... qui cherche toujours, l'époux, on pourrait dire, qui cherche à des sujets qui peuvent un tout petit peu évoquer certains...
On a quand même un bonhomme qui utilise des passeports diplomatiques qu'il aurait dû restituer depuis longtemps.
Mais voilà. On est quasiment dans le fait divers. On peut pas parler de ça comme d'une affaire d'État.
Mais alors,
c'est à côté des autres sujets dont on a parlé, c'est-à-dire en particulier les gilets jaunes, les inégalités sociales, le gouvernement Macron, est-ce qu'il va réussir à faire des réformes ou pas pour lesquelles il a été élu. L'affaire Benalla, c'est rien. Et donc, pour moi, c'est un non-événement.
Alors, Éric Rochant, sur votre blog, j'ai lu des phrases extrêmement dures concernant les médias hier. Je vous cite, hein. Les médias sont comme l'eau qui va là où un passage se ferait en épousant la pente. Les médias obéissent à une loi. La loi du format le plus plébiscité aujourd'hui, c'est celui d'Internet et des réseaux sociaux. À la radio, je vous cite, hein. Ce sont les réseaux sociaux qui imposent les sujets et les affectent à commenter. Le questionnement est totalement éjecté des médias. Fin de citation. Alors, pardonnez-moi, Éric Rochant, je suis ravi de vous recevoir. Ce que vous faites au cinéma est formidable, votre série est extraordinaire. Mais si je prends un grand média, au hasard, France Inter, ce que vous décrivez, c'est pas du tout le genre de la maison, hein. Venez à nos conférences de rédaction dans lesquelles nous élaborons le contenu de nos journaux, de nos émissions. On n'arrête pas de se poser des questions, de vouloir expliquer, raconter la vie ici, en France, à l'étranger. On veut mettre en perspective, on va sur le terrain, on fait du reportage, on interroge les gens qui contestent, qui souffrent, qui ont des choses à dire. Et on n'est pas du tout là pour recopier les réseaux sociaux.
Bien, mais donc vous avez pris le temps de me répondre, c'est bien. J'ai pas de France Culture, hein. J'aurais pu effectivement épargner France Inter, hein, donc ne vous en faites pas, vous n'êtes pas au même moment, on n'aime pas dire tout le monde. Il n'empêche que je pense effectivement que l'événement qui a été cette révolte des gilets jaunes a révélé une grande baisse de qualité de la couverture médiatique, qui je pense que les médias, les journaux papier, mais aussi les journaux télévisés, se définissent maintenant. Il y a deux grandes tendances. C'est commenter les événements des réseaux sociaux comme si c'était des événements physiques importants. Donc on commente le nombre de clics, le nombre de likes, le nombre de gens qui signent une pétition sur internet, comme si c'était exactement de la même manière, avec aussi ce sentiment du direct, de la même manière que un tsunami ou des événements comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a ce formatage de la couverture médiatique qui veut maintenant et qui rend quasiment obligatoire de faire comme si c'était du direct. C'est-à-dire que on est passé de la relation en direct de l'arrestation de Strauss-Kahn il y a 5 ans, je ne sais plus si c'était il y a 5 ou 6 ans.
En 2011.
C'était quasiment la découverte que Twitter pouvait vous permettre de rentrer rentrer minute par minute dans l'histoire de Strauss-Kahn. Les révolutions arabes aussi, c'était la découverte que Twitter pouvait relater des choses aussi importantes que les révolutions arabes. Mais maintenant, en fait, on estime que comme ça a fonctionné, le business model médiatique aujourd'hui veut qu'on traite comme si c'était du direct des événements qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, je reprends maintenant, vous défendez France Inter, ce que je comprends, mais je reprends cette une de la semaine. Franchement, l'affaire Benalla, c'est vraiment un événement majeur de la semaine. Non, ce n'est pas un événement majeur de la semaine. C'est quelque chose qui est gonflé. Donc quand je dis que les médias sont à la traîne des réseaux sociaux, oui, je pense effectivement que malheureusement, de moins en moins de médias prennent le temps de réfléchir, prennent le temps de s'interroger, prennent le temps de douter de la définition des choses qu'on est en train de voir. Et effectivement, on est en train de commenter les réseaux sociaux qui sont finalement la locomotive de l'information aujourd'hui.
1989, c'était Un monde sans pitié, un film d'Éric Rochant, un film sur une génération à bout de souffle, et le film démarrait ainsi.
Si au moins on pouvait en vouloir à quelqu'un. Si même on pouvait croire qu'on sert à quelque chose, qu'on va quelque part. Mais qu'est-ce qu'on nous a laissé? Les lendemains qui chantent? Le grand marché européen? On n'a que dalle, on n'a plus qu'à être amoureux comme des cons. Et ça, c'est pire que tout.
Voilà, Hippolyte Girardot au début de ce film Un monde sans pitié. Aujourd'hui encore, Éric Rochant, est-ce qu'il y a toujours une génération à bout de souffle, avec ce sentiment de ne pas avoir d'avenir, de ne pas avoir sa place dans ce monde, de ne pas compter?
Oui, mais plus du tout de la même manière. Je pense que depuis Un monde sans pitié, il y a eu deux changements majeurs. Un monde sans pitié parlait d'un monde héritier de la fin des idéologies. Donc effectivement, qu'est-ce qui nous restait? En quoi pouvait-on croire? Le grand marché européen, c'était pas quelque chose qui pouvait enthousiasmer autant que l'idéologie d'un monde meilleur, comme l'idéologie communiste, par exemple. Donc, entre-temps, je pense qu'il y a d'autres idéologies qui sont nées, et en particulier une idéologie extrêmement noire et négative, qui est l'idéologie islamiste, qui, en fait, fonctionne exactement comme une idéologie. Donc ça, c'est une différence. Mais c'est vrai que l'absence de perspective, c'est quelque chose, c'est pas la même, hein, c'est pas une absence de perspective idéologique, mais je pense que il s'est passé encore autre chose. Il s'est passé deux révolutions majeures, deux révolutions technologiques qui changent notre mode de vie, notre vision du monde et la structure des sociétés dans lesquelles on vit. C'est Internet, la révolution numérique et maintenant la révolution de l'intelligence artificielle. Ça fait que tout va plus vite. On doit changer de monde quasiment tous les 10 ans. Et Pour changer, pour suivre ce changement de monde, on a besoin d'être stable socialement. Car si on n'a pas de stabilité sociale, on est incapable de suivre ces changements du monde qui sont de plus en plus radicaux, hein, et de plus en plus rapides. Et donc c'est vrai que dans ce monde qui change aussi vite que ça, l'instabilité sociale vous donne le sentiment, qui à mon avis est réel, vous donne le sentiment que vos enfants, que vous n'avez aucune chance d'assurer un meilleur avenir que votre présent à vos enfants. C'est-à-dire que l'ascenseur social est probablement de plus en plus arrêté du fait de ces changements. Il faut vraiment une certaine stabilité sociale pour les suivre. Parce que même quand on est stable socialement, je veux dire que c'est plutôt difficile à suivre. Et même les gens qui sont aisés ou qui n'ont pas d'insécurité sociale, même ceux-là ont peur de l'avenir car ils ne savent pas de quoi il sera fait à cause justement de ces changements technologiques majeurs. L'intelligence artificielle va absolument tout changer dans notre façon de travailler, de vivre, notre rapport à la connaissance, notre rapport à la vérité. Mais là, pour des gens qui n'ont pas les moyens de finir leur fin, comment peuvent-ils? Ils n'ont pas la perspective d'un monde meilleur. Ça, c'est vraiment désespérant. Et je pense que la désespérance actuelle qui est mondiale, hein, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est-à-dire les gilets jaunes, ça s'inscrit dans un mouvement mondial qui évidemment met en avant les propositions populistes. Il n'empêche que c'est un symptôme et je pense que c'est le symptôme effectivement d'une désespérance par rapport à l'avenir qui est due aux changements technologiques qui sont assez inquiétants.
Alors ces changements, on les découvre hein, dans la saison 4 du Bureau des Légendes avec la cyberguerre, le cyberespionnage. Comment vous êtes-vous initié à ce cyberespionnage avec des gens de la DGSE ou en lisant?
Bah plutôt en lisant, des fois je fais appel à des experts. Non, j'interroge pas les gens de la DGSE car normalement ils me disent rien. Hein. Ouais. Donc par contre, je peux avoir affaire des fois à je peux aller chercher des experts qui peuvent m'apprendre un peu ce que c'est que la cybersécurité ou l'intelligence artificielle, qui sont des gens qui peuvent eux-mêmes apporter leur expertise aux services de renseignement, car en fait les services de renseignement ont besoin de cerveaux, ont besoin de gens qui comprennent, de gens qui font, etc. Donc je préfère aller chercher des gens qui sont experts dans certains domaines, et on trouve quasiment tout sur Internet. Ça, c'est le bon côté d'Internet, hein, c'est le partage du savoir. C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là qui était finalement presque utopique. On ne s'attendait pas à ce qu'Internet devienne aussi la place où la haine et la fureur s'expriment de manière aussi directe. Il n'empêche que c'est aussi le lieu et la place où le savoir se partage. Et donc, du coup, on a accès à peu près à tout ce dont on a besoin pour se documenter.
Une pause musicale avec le trio Delgrès, c'est la musique qu'on aime, sur France Inter, le créole entier, une rythmique pop musclée, des mélodies un peu caribéennes, et c'est Respect Nous.
Nous jeunes français, j'attends pour nous, respecte-nous. Nous jeunes français, j'attends pour nous, respecte-nous. Si nous pas fait nous-mêmes, qui n'y font faire pour nous. Oh.
cesser. Oui, nous, j'allais pas en fait.
Ça a un côté un peu 60s, années 60. Respecte-nous, le trio Delgrès sur l'album Mo Jodi. Et notre invité dans Une semaine en France, c'est Éric Rochant, le créateur de la série Le Bureau des Légendes. Déjà 4 saisons, une 5e, on ne sait pas, on n'a pas eu de réponse, on ne sait pas ce qui va se passer. Éric Rochant, une personne qui veut postuler pour entrer à la DGSE, fascinée par votre série, est-ce qu'elle ne sera pas déçue par ce job si elle l'obtient? Parce que c'est souvent, et on le découvre dans votre série, c'est souvent un travail fastidieux derrière un bureau, un ordinateur, la rédaction de notes. Il y a quand même peu de rebondissements. On découvre que les gens de la DGSE, c'est pas James Bond, c'est pas des surhommes, quoi.
C'est possible, oui, c'est possible. Mais je pense que les gens qui postulent à la DGSE peuvent aussi découvrir des horizons que la série ne donne pas, en particulier des horizons d'expertise et de, parce que on apprend, je pense aussi, on utilise sûrement des outils de, enfin, ce sont les gens les plus performants qui vont à la DGSE. Les services de renseignement, pas seulement français, ont besoin des gens les mieux qualifiés et les plus performants. Donc déjà, je pense que c'est un lieu où on peut, qui peut être intéressant pour soi-même, mais aussi, bon, ça permet aussi de faire un travail qui sert à quelque chose. Hein. Donc ça sert quand même à défendre les intérêts de la France, l'intérêt en tout cas de son pays. À travers le Bureau des Légendes, d'ailleurs, j'ai eu envie d'interroger ce que c'est que le patriotisme, et ce que c'est aussi que le rapport comme ça à son pays. Est-ce que c'est une terre, est-ce que c'est une idée, est-ce que c'est un concept? Ça, c'est un rapport, c'est quelque chose d'intéressant, et c'est quelque chose d'intéressant surtout dans le monde actuel, parce que ce qu'on appelle la globalisation, c'est-à-dire la mondialisation, rend les gens un peu inquiets sur cette idée de frontière ou de non-frontière, et on a envie de revenir au physique. J'ai l'impression que les gens ont envie de revenir au physique, de mettre des frontières physiques, parce qu'ils sont un peu inquiets de cette virtualité et je pense qu'ils ont l'impression qu'ils sont menacés. Donc c'est vrai que ce retour, par exemple, nationaliste, on veut des frontières physiques, c'est un peu une sorte de réponse à la marche du monde. Ils n'arrêteront pas la marche du monde. La marche du monde, c'est celle-là. Il faut l'accompagner, l'accompagner et l'améliorer, mais revenir en arrière de cette marche du monde, revenir à de plus en plus de physique, de frontières physiques, de se replier sur soi-même, les uns contre les autres. Donc ça, c'est un peu aussi des préludes à la guerre. Je pense que c'est des retours en arrière qui sont probablement des soubresauts dans un mouvement général qui va dans l'autre sens.
Les séries qui ont tant de succès depuis début des années 2000, est-ce qu'elles ont renouvelé ce qu'est un auteur de cinéma?
C'est une démarche créative très différente de celle du cinéma, et ce pour les raisons que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait on travaille sur la durée. On travaille sur des personnages qui doivent rester intéressants dans la durée, et ça nous permet aussi de les approfondir, d'approfondir leur caractère, leur force de caractère, et même d'ailleurs ça nous permet de raconter des personnages qui changent, des transformations. Ça nous permet de raconter la transformation du temps sur les personnages, ou la transformation du temps sur des milieux, sur des milieux professionnels, sur une ville comme Baltimore dans The Wire. Donc ça nous permet beaucoup mieux que le cinéma, je crois, de mieux raconter le passage du temps et l'usure du temps sur les gens et sur les choses. Et je me rappelle avoir eu cette impression du passage du temps dans un film de Sergio Leone magnifique qui était une fois l'Amérique, mais le film dure 4 heures. Donc au bout de 4 heures, au bout de 3 heures et demie de film, on a l'impression d'avoir vécu un passé, mais c'est vrai qu'il faut du temps, et ça, la série permet ça.
Quand vous est venue cette passion pour le cinéma? Est-ce qu'il y a un jour, vous avez vu un film lorsque vous étiez jeune, et puis ça a été le déclic, j'ai vu ce film, je veux faire ça?
je dirais très très tôt, hein. Je pense que ça a dû être déjà dès le premier film que j'ai vu au cinéma, et je pense que ça doit être Dumbo, le dessin animé Walt Disney. Et d'ailleurs, quand j'étais petit, quand j'avais une dizaine d'années, je voulais faire du dessin animé. Et j'ai commencé par faire du dessin animé, vous savez, des dessins animés sur des feuilles de cellulose, on faisait 500 dessins pour faire un mouvement qui durait 4 secondes. J'ai commencé comme ça, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire du coup de l'animation, hein, donc on pouvait faire comme du dessin animé mais avec des vrais objets, et puis à un moment donné je me dis mais pourquoi on passerait pas directement de l'animation avec des vrais personnages carrément à faire un film. Donc c'est né avec mon amour du cinéma qui lui est né très très vite, très 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 très, très
vous vite. Avez dit un jour j'ai été très formaté par le cinéma politique américain. Explication.
Bon, en fait, voilà, je suis né en 61, donc j'étais adolescent dans les années 70, donc je suis devenu très cinéphile avec ce cinéma-là, ce cinéma américain des années 70. Et ce qui caractérise le cinéma américain des années 70, c'est c'est un cinéma qui est venu du reportage. Hein, donc c'est un cinéma très ancré sur le réel, dans la description du réel, et même au niveau formel, hein, ils avaient une façon de filmer en longue focale, une caméra assez libre comme ça, qui était la façon de filmer du reportage. Et aussi c'est un cinéma politique, parce que c'était le cinéma américain des années 70, c'est le cinéma contre Nixon, contre la guerre du Vietnam, donc c'est un cinéma très ancré sur le réel et aussi très politique. Donc moi, ma cinéphilie, c'est celle-là. Donc c'est vrai que j'ai une vision du cinéma et une envie et un désir de cinéma et aussi un désir de série probablement qui est hérité de cette vision politique.
Des questions rapides, Éric Rochant. Quel est l'acteur ou l'actrice aujourd'hui disparu que vous auriez aimé diriger dans un film ou une série?
Français ou international?
Français ou international, pas d'importance.
Non, il y en a tellement. Oui. Non, il y en a beaucoup. Hein, donc,
Humphrey Bogart.
Non, oui. Spencer Tracy dans ce cas-là aussi. Ouais. Voilà, et Bernadette Lafont.
Mm-hmm. Et même question pour un acteur, une actrice toujours avec nous aujourd'hui que vous souhaitez un jour diriger dans un film ou une série, un grand rêve non réalisé encore avec un acteur ou une actrice.
Oh, il y avait beaucoup d'acteurs avec lesquels j'ai envie de travailler. Même pour prendre un acteur, Elio Germano, un acteur italien extraordinaire qui joue dans un film qui s'appelait Mon frère est fils unique, qui est un acteur extraordinaire.
À propos du Bureau des légendes, vous citez souvent comme référence le film sur la traque de Ben Laden, Zero Dark Thirty. Pourquoi ?
C'est un film qui nous a beaucoup frappé. D'abord, qui est très efficace. Et qui a une dramaturgie, une narration, une force narrative très importante, alors que c'est aussi ancré dans le réel. Donc c'est vraiment une articulation entre une force narrative et un ancrage dans le réel qui est très important. C'est vrai que c'est un film qui est aussi, à mon avis, hérité du cinéma américain des années 70. Et Catherine Bigelow est une cinéaste très puissante, hein. Donc, mais là, le sujet lui-même nous a beaucoup impressionné, et la façon de le traiter nous a beaucoup impressionné.
Alors, vous êtes le créateur du Bureau des légendes, vous êtes aussi, vous avez importé des États-Unis cette fonction du showrunner dans une série. Le chef d'orchestre, c'est vous, donc vous êtes l'homme qui dirigeait absolument tout le monde. Et ça se passe, on a dû essayer de nous décrire, ça se passe dans une salle d'écriture, il y a les studios de tournage qui sont pas loin, c'est dans un même lieu, c'est indispensable ?
C'est une sorte de logistique, hein, parce que l'idée du showrunner, le showrunner, c'est un auteur-producteur. C'est l'auteur et producteur. C'est-à-dire, c'est celui qui écrit, garde la main sur ce qu'il a fait jusqu'au bout. Donc, il abandonne pas ce qu'il a fait une fois que c'est écrit. Donc, quand c'est réalisé, il continue à garder la main dessus, il continue à superviser la réalisation, il supervise aussi la post-production, il supervise absolument tout. Donc ça, c'est l'idée du showrunner qui est un auteur-producteur. Maintenant, il y a une autre idée qui est très importante qui vient des États-Unis, c'est qu'on produit une saison par an. Pour produire une saison par an, il faut écrire en même temps qu'on tourne la saison. On écrit la suivante quasiment au moment où on tourne la précédente. Donc, toutes les phases de fabrication sont chevauchées. Et pour pouvoir faire ça, il faut absolument physiquement, bêtement, être au même endroit pour tout faire. Donc il faut être au même endroit pour écrire, pour tourner, pour monter, pour produire. Donc voilà, donc on ramasse dans un seul lieu toutes les étapes de fabrication parce que elles sont quasiment simultanées.
Et tout ça va se remettre en place pour la saison 5 en 2019.
Peut-être.
Dans Une semaine en France, voici les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Les dernières de 2018, nous avons choisi de rediffuser le reportage de Sandrine sur les chiens du silence. Et vous avez été très nombreux à nous écrire pour saluer le travail d'une petite association qui dresse des chiens guides, non pas pour les aveugles, mais pour les personnes sourdes. On les appelle les chiens écouteurs. Joe, par exemple. Eh bien, Audrey ne peut plus s'en passer. Suite à un AVC, à l'âge de 18 ans, Audrey est sourde à 100%. Son berger australien, Joe, a appris plusieurs dizaines de sons qu'il analyse, puis retransmet à sa maîtresse, pas en aboyant, évidemment, mais en lui faisant des signes, en la touchant. Alors, direction le nord de la France, à la rencontre de Joe et Audrey. À noter que si l'interview a pu se faire, c'est parce qu'Audrey, qui a perdu l'audition dans son accident, elle lit parfaitement sur les lèvres et son élocution est intacte.
Joe, viens là, viens mon gros, viens dire bonjour, viens là. Voilà mon pépère, un beau petit loulou, en fait, 26 kilos quand même. Là, il se demande ce qui se passe, donc il nous regarde.
Ces deux petites oreilles dressées, c'est à elle qu'on doit cette interview. Sans elle, Audrey n'aurait pas vu le SMS de France Inter. C'est son chien qui l'a prévenu que son portable venait de biper.
C'est un miracle. En fait, Joe me permet d'entrer dans votre monde, dans la vie.
Sans Joe, vous êtes dans quel monde ?
Dans un monde de silence et de solitude. Je suis sourde. C'est compliqué pour un sourd.
Comment ne pas rater la sonnerie du réveil, par exemple? Avec Joe, c'est plus facile.
Quand le réveil sonne à 6 heures, il vient, il met deux pattes sur mon côté, et puis il me lèche en fait les mains, il vient me chercher, il faut que je sorte du lit en fait.
Du réveil jusqu'au coucher, Joe ne quitte pas sa maîtresse d'un poil. En voiture, c'est carrément indispensable.
Joe a une ceinture de sécurité, donc il est assis au siège passager. Et c'est lui qui m'indique les bruits signifiant une urgence.
Un exemple.
Bon, une fois sur l'autoroute, Joe m'a indiqué l'arrivée des pompiers. La voiture arrivait vraiment de mon côté, il fallait vraiment que je m'écarte. Et Joe, en fait, là, à ce moment-là, a mis sa patte sur mon bras et d'un air de dire non, mais c'est maintenant, en fait.
Parce qu'évidemment, vous n'entendez pas les sirènes.
Non, je ne les entends pas. Donc si j'arrive à les voir, tant mieux. Sinon, c'est Joe, en fait. Un jour, j'ai laissé trop longtemps mon clignotant. Il a posé sa patte sur mon bras, s'est mis à gonfler des joues, puis il me montrait en fait le clignotant qui clignotait toujours.
En regardant le cadran, mais enfin, c'est dingue.
Joe indique la provenance du bruit. Donc il va me montrer le lieu où se situe le bruit, et si je ne comprends pas vraiment, il va vraiment insister, me montrer vraiment précisément où ça se situe.
Ce n'est pas un chien. C'est un radar.
Parfois, quand il y a des gens en trottinette qui arrivent vraiment vite, Joe, en fait, fait barrage.
Il entend le bruit d'une trottinette ou d'un vélo.
Il entend vraiment tout. Un enfant, un autre chien. Il est vraiment vigilant au moindre bruit, en fait. Comme le danger, pour moi, en tant que sourde, vient de derrière et pas devant, Joe fait barrage de tout ce qui peut arriver derrière.
Et si Audrey ne comprend pas ce que son chien veut lui dire, plan B.
En fait, j'ai juste à lui demander en langage des signes qu'est-ce qu'il y a. Et
En langage des signes?
Oui. On met les mains, en fait, les paumes vers le haut et on fait un balancier, en fait.
Démonstration.
Montre-moi, Joe, montre.
Une voix d'homme vient d'appeler Audrey depuis la cuisine.
Joe, montre-moi, montre. Donc là, en fait, il est venu me chercher et là, il me conduit à la source du bruit. Donc là, on traverse le salon, on arrive à la cuisine et il y a monsieur.
Mais c'est dingue.
Montre-moi. C'est monsieur, il m'a appelé.
Allez, dernier exemple, il est 20h, Audrey attend des invités.
Si je veux mettre un plat au four, je fais préchauffer mon four et forcément, à un moment donné, je dois attendre 5 minutes pour que le four m'indique que c'est chaud. En fait, je compte sur Joe. C'est Joe qui va venir me chercher, m'amener jusqu'au four pour me dire qu'il faut que je mette mon plat. C'est ça mon miracle. Je suis entendante. C'est lui qui me donne vie, en fait. Puisqu'il me montre tout, il m'indique tout. Aujourd'hui, je ne peux pas faire ma vie sans Joe ou un autre chien écouteur à venir.
Ça veut dire que vous vous préparez aussi quand même un jour, ce chien partira en retraite?
Joe restera avec moi. On aura un petit frère ou une petite sœur, hein, mais on n'aura pas... Joe restera à la maison. Il finira ses jours avec nous. Joe et moi, on est fusionnels. Vous ne pouvez pas nous séparer. Vous nous tuez tous les deux, en fait. Je ne peux pas me séparer de lui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, sinon, en fait, vous me renvoyez dans mon monde de silence. Et puis surtout, c'est mon guide. C'est même pas mon chien guide, c'est mon guide dans la vie. Et je dois tout, en fait, à l'association des chiens du silence. Elle donne tout. Tout pour les chiens qu'elle forme et aussi pour nous. Il y a un vrai silence de sourds sur ces merveilleux chiens. Viens, Joe. Viens. Viens là. Viens. Viens là.
Voilà, reportage de Sandrine Houdin, si vous voulez aider cette petite association qui dresse ses chiens écouteurs. Il y a un site, www.lechiendusilence.com. Impressionnant, Eric Rochant, ce reportage. C'est bien, le reportage. Oui. C'est la vie, voilà. C'est là, on ne suit pas les réseaux sociaux. On cherche nous-mêmes des sujets, des moments.
Non, vous n'êtes pas complètement mauvais, Pierre.
Je reviens sur votre carrière. En 1989, il y avait Un monde sans pitié, un film marquant, formidable. Hein, mais vous avez galéré quand même pour revenir au premier plan. Là, depuis 2015, c'est le succès avec le Bureau des légendes. Vous vous dites quoi aujourd'hui? Je le mérite, ce succès, c'est que le début, je vais faire plus fort, difficile de faire mieux.
Difficile de faire mieux, non. Enfin, en fait, la peur de perdre, c'est ce qui fait rater absolument tout. Donc, faut éviter d'avoir peur de perdre. Non, pas du tout. Je me dis rien de spécial. Je ne crois pas me régler sur les idées de succès ou d'échec, car effectivement j'ai eu des succès, j'ai eu des échecs, et les succès comme les échecs sont à peu près à chaque fois des malentendus. Il faut pas, en tous les cas, il faut pas être dupe des succès, il faut pas être dupe des échecs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas penser parce qu'on a eu un succès qu'on est extraordinaire. Il faut pas penser que ce qu'on a fait est bien. C'est pas parce que ça marche que c'est bien. Et de la même manière, c'est pas parce que ça ne marche pas que ça n'est pas bien. Donc il faut essayer de tracer sa route. La création, c'est ça. Hein, c'est on essaie de s'exprimer. C'est une création de spectacle. On essaie de s'exprimer et que cette expression rencontre les gens hein, qui sont là à qui on s'adresse. Bon, ben ça les rencontre pas. C'est lié à plein de facteurs qui peuvent être aussi des facteurs de mode. Et puis ça les rencontre. Ça peut être aussi des facteurs de mode. Donc, il faut continuer à créer en essayant de faire le mieux possible.
Et qu'allez-vous créer? Alors, j'essaie de savoir vraiment ce qui va se passer en 2019. Une série 5 ou alors une autre série sur un autre thème? Les nouveaux patrons de la Russie?
Les patrons de la Russie, oui, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, on peut continuer à traiter de ce sujet, même dans le Bureau des légendes. Hein. On n'a pas fait le tour. Dans le Bureau des légendes, on n'a pas fait le tour de tout. Donc, il est quand même probable qu'il y ait une saison 5, voilà. Car nous n'avons pas fait le tour de tout. Bien Mais sûr. Encore faut-il que la saison 5 soit valable en termes de narration et de création. Vous verrez bien s'il y en a une ou pas, et surtout à quoi elle ressemblera.
Dernière question, Eric Rochant, un des hommes les plus puissants de France, les plus mystérieux aussi, le directeur général de la DGSE, Bernard Aimier, était là avec ses gardes du corps pour l'avant-première de la saison 4. Quelle critique a-t-il faite cette saison?
Mais il l'a gardé pour lui. Hein.
Qu'est-ce qu'il vous a dit?
C'est secret probablement.
Éric Rochant, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter d'une semaine en France.
Merci à vous.
Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.